Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous, celle qui prend soin de vous et de vos proches, tous les jours en direct jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, on va aborder quel sujet ?
Alors ce matin, on va vous proposer un éclairage sur le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va voir que ce trouble ne concerne pas que les enfants, mais aussi les adultes. Et on vous dira surtout comment mieux les vivre au quotidien. Bref, comme toujours, on va tenter de vous faciliter la vie et on le fera grâce à l'expertise et aux bons conseils de nos invités. Aujourd'hui, nous recevrons le docteur Louis Vera, il est pédopsychiatre à Paris, ainsi qu'Adrien Devivert, il est journaliste et animateur en Belgique. Il nous racontera comment il vit justement depuis 40 ans avec ce cerveau dans lequel ça va très vite, trop vite parfois, mais il a réussi à faire très bien avec et il nous expliquera comment.
Et ensuite, Mélanie, à 11h45, ce sera notre séquence tendance. Tout d'abord, Vincent Busset, notre expert déco, sera avec nous. Il va nous présenter quelques idées cadeaux dans le secteur de la déco pour faire plaisir au papa. Et bah oui, n'oubliez pas, dimanche, ce sera la fête des pères, donc ça pourrait peut-être vous inspirer. Et puis on ira également regarder du côté de la mode ce matin avec Sophie Braffman. L'été est presque là, quelles sont les chaussures branchées cette année pour exhiber nos orteils ? Elle nous a fait une petite sélection qui devrait vous faire plaisir.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Notre question du jour, la voici. Vous la gérez comment, votre hyperactivité ou celle de votre enfant ? On va détailler tout ça avec nos invités, mais avant ça, on va se tourner vers Clément Lanoux, comme tous les jours, pour démarrer l'émission. Clément, vous ne seriez pas un peu TDAH, vous d'ailleurs, peut-être ?
Bonjour tout le monde, hein, c'est vous qui le dites, j'en sais rien du tout. J'ai jamais été diagnostiqué, en tout cas, non, par rapport à nos invités. Je pense que j'ai un cerveau beaucoup plus lent et beaucoup moins d'idées. Mais c'est un trouble, justement, on va parler des troubles de l'attention, c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est quoi votre question déjà ?
Je me suis demandé où il allait.
Ouais, donc voilà. Non, c'est parce que j'ai moi-même deux amis que je connais donc depuis 15 ans, 20 ans, je ne sais plus.
Clément.
Ouais, oui,
Clément,
pardon. Ouais. Donc ouais, je connais depuis longtemps et qui souffre de ça justement. Alors c'est pas forcément, c'est la question que vous m'aviez posée, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Ah, ouais. Effectivement, peut-être petit trouble de l'attention. Alors j'ai regardé, personne n'est d'accord sur les chiffres, apparemment ça s'embrouille. Certains disent que c'est 0,3% des enfants qui seraient concernés, d'autres 4% des adultes en général. J'ai pas trouvé le même chiffre, donc j'espère qu'on l'aura dans cette émission. C'est très dur. C'était ça votre question, hein ?
C'est ça.
C'est très dur à diagnostiquer, à savoir si vraiment c'est du trouble de l'attention, du manque de concentration, on ne sait jamais. Donc je me suis tourné vers des professionnels. J'ai trouvé des élèves qui souffrent justement de ça.
Alors en cours, je ne sais pas si c'est vraiment des troubles de l'attention qui viennent de moi ou si c'est juste le prof qui est chiant. Mais j'ai quand même ma petite idée là-dessus.
Donc voilà, j'ai pas réussi à savoir si les élèves souffraient de ça ou si c'était juste un mauvais professeur. Et toute ma carrière était sur cette question. Et puis, il y a également d'autres personnes, les personnes en couple qui parfois en souffrent et arrivent à le diagnostiquer.
Je pense que j'ai des troubles de l'attention parce que parfois quand j'arrive en soirée, au bout de deux verres, j'ai tendance à oublier que je suis en couple.
Non.
Je pense que c'est un trouble de l'attention, ça.
Alors non, ça n'a rien à voir, ça s'appelle l'infidélité ou alors l'hyperactivité qu'on abordera. C'est peut-être
on va faire la
personnes...
séparation, le divorce, hein, dans bien quelques jours, là, donc c'est très bien,
ce
je pense.
Ce n'est pas de l'infidélité, c'est de l'hyperactivité. Il y a vraiment
c'est
une
génial.
Tendance à être hyper tout, hyperactif, hyper-sensible, hyper-connecté. C'était bien ça votre question ?
Non, laisse
tomber. C'était pas ça. Donc voilà. Et on me demande souvent si je suis hyperactif juste parce que je fais deux, trois choses ou que j'ai les mains qui bougent, j'ai tendance à gesticuler. Mais le week-end, quand je suis chez moi et que je fais rien, on me demande pas si je suis hyper passif. On me traite juste de gros feignant. Donc il y a un truc à bosser là-dessus. J'ai hâte d'en apprendre plus. Je sais pas du tout, mais j'ai l'impression que ça me parle de temps en temps de passer d'un sujet à l'autre. Alors peut-être que je suis finalement
un trouble de l'attention.
Mais pas forcément avec hyperactivité. On va justement en parler avec nos professionnels. Merci Clément, en tout cas pour cette entrée en matière.
J'ai rien fait moi. Je viens de faire le truc.
Il a déjà oublié. On va analyser les choses plus en détail avec nos invités. Bonjour docteur Louis Vera.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre à Paris et vous êtes spécialisé notamment dans ce fameux trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Avec nous aujourd'hui également Adrien Devivert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animateur et journaliste en Belgique et vous êtes l'auteur du livre On m'appelle la tornade, parcours de vie d'un créatif encombrant et c'est paru chez Kenes Éditions. Alors docteur Vera, on entend partout autour de nous des personnes qui ont été diagnostiquées TDA ou hyperactif. Est-ce qu'il y a vraiment une épidémie ces dernières années ? Est-ce que vous, dans votre cabinet, vous en voyez de plus en plus en consultation ?
Alors, j'aimerais déjà commencer par une chose, un petit rappel, et c'est pour ça que j'ai amené un vieux copain.
Oh, un petit robot.
Mon petit robot. Et effectivement, les robots, ils ont cette particularité d'être produits à la chaîne et d'avoir tous les mêmes caractéristiques. Et là, on est en train de parler d'êtres humains, d'enfants, d'adolescents qui sont en pleine évolution. Et ce que je rappelle souvent aux parents, c'est que c'est normal d'être différent. D'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse de l'être humain, c'est nos différences. Donc, l'école a déterminé qu'un enfant en sixième pouvait se concentrer 50 minutes, mais ce que j'aimerais dire, c'est que la norme, c'est aussi 15 minutes ou 1h25. Mmh. C'est aussi 30 minutes, c'est aussi 45 minutes. On peut tous avoir du mal à se concentrer. Quand on parle de troubles déficitaires de l'attention, j'aime pas le mot hyperactif parce que souvent, finalement, ça fait penser à des caricatures qui étaient très bien faites, hein. mais on caricature un peu quand on parle d'hyperactif. Donc moi, je parle surtout de troubles de l'attention. Ce qui va faire qu'on va poser ce diagnostic, c'est des difficultés persistantes. On dit plus de 6 mois dans les bouquins. Moi, j'aime bien le poser après 2 ans d'évolution, avec un retentissement important.
Dans quoi ? Dans sa vie perso ? Dans l'école ?
Dans la vie perso, dans la vie scolaire, dans la vie perso, parce que le gamin va oublier sa carte de cantine 2 fois par semaine, il va perdre son carnet de correspondance.
Mais c'est tous les gamins, ça, non ?
Il va oublier ses cahiers. Et non, en fait, c'est ça. On peut tous avoir du mal à se concentrer, on peut tous oublier nos affaires, mais quand c'est récurrent et quand ça entraîne un retentissement lourd, on va évoquer le diagnostic de troubles de l'attention.
Alors Adrien, vous avez écrit un livre il y a 2 ans justement pour témoigner de votre parcours de troubles de l'attention avec hyperactivité. Comment vous avez su, vous, que vous l'étiez ? Je crois que vous avez été diagnostiqué très tardivement finalement. Hein.
Oui, exactement. Diagnostiqué très tardivement, un peu par la force des choses, puisqu'en fait, moi, je voulais apporter ma contribution à une association en Belgique qui s'occupe des TDAH, que ce soit les enfants ou des adultes. Et du coup, il était intéressant effectivement de faire le parcours du diagnostic pour vraiment valider cette hypothèse-là que j'avais déjà depuis très longtemps dans ma tête, puisque bien voilà, effectivement, quand j'étais enfant, c'était pas tous les jours que j'oubliais mon carnet de notes, mais peut-être 1 jour sur 2. Et il y avait pas mal de choses dans lesquelles je me sentais un peu en marge. Je pense que ce qui était important de préciser aussi, c'est qu'il n'y a pas que le trouble de l'attention dans le TDAH. Il y a tous des symptômes correspondants à ça. Il y a les symptômes d'anxiété, il y a les symptômes de parano parfois aussi, qui vont être liés et qui du coup font de ce trouble quelque chose de très compliqué à diagnostiquer ou en tout cas à comprendre, non ? De manière publique.
Alors il y a d'autres choses que les difficultés d'attention. L'anxiété, c'est quelque chose à part. Hein. Mm-hmm. Parce que ce que j'aime bien toujours préciser, c'est que TDAH, c'est une construction. Mm-hmm. On a du mal à se concentrer, on a du mal à s'organiser. On a décidé d'appeler ça TDAH, mais c'est une construction, un regroupement de symptômes, et il n'y a pas de réalité biologique derrière.
Il n'y a pas y a quelque chose dans le cerveau.
Ouais. Non, les laboratoires nous vendent l'hypothèse de la dopamine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dopamine, elle est impliquée dans tous les processus au niveau cérébral.
Mais il n'y a pas un circuit qui dysfonctionne, quelque chose, en tout cas qui ne fonctionne pas comme les autres.
Il y a une fatigabilité supplémentaire. Et après, l'anxiété, c'est un trouble à part. La parano, c'est pas fréquent.
On peut l'être en plus, mais c'est
on peut l'être en plus.
C'est un topping.
On peut avoir des épisodes quand on fume un peu de cannabis pour se calmer quand on est hyperactif. mais vraiment, le noyau central de ces difficultés, c'est d'avoir du mal à se concentrer, et pas uniquement à l'école. Hein. C'est aussi dans les activités périscolaires. Le gamin que je reçois, je lui demande toujours, quand t'es en train de faire ton tennis, est-ce que t'écoutes les consignes du prof ? Et en général, ce qu'il me répond, c'est en fait, je passe toujours en dernier, je regarde ce que font les autres pour savoir ce qu'il faut faire. Mmh. Et en plus de ça, c'est des difficultés à s'organiser. Ouais. Ça, c'est le noyau dur. Après, certains vont être lents, certains vont être rapides, mais
il y a différents degrés.
Oh là 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 là. Il y a la notion d'impulsivité aussi qui est importante, je pense, hein, que ce soit dans la parole ou dans les gestes aussi. Puisqu'il y a un manque de contrôle, justement, de concentration, de coordination aussi. Parfois, moi, j'ai souvent tendance à parler trop vite, à faire des choses trop vite, parce que je n'ai pas réussi à me focaliser sur le geste qu'il fallait faire. Et l'exemple du tennis est bon, puisque je suis un joueur de tennis très mauvais.
Alors, en fait, par rapport à cette impulsivité, c'est bien de poser la question et de le rappeler. Souvent, on va prendre des troubles du comportement pour un TDAH, parce qu'il y a cette image que le TDAH est impulsif. Mais l'impulsivité du TDAH, j'ai toujours dit que c'était comme une sorte d'adaptation du cerveau. Mm-hmm. On sait qu'il y a une idée qui va venir en bousculer une autre, et donc on va sortir l'idée très vite pour ne pas l'oublier. Mmh. Et le gamin qui sait en évaluation qu'il a 1 heure pour faire le truc, mais qu'au bout de 30 minutes, il n'y aura plus rien à tirer de lui, il va se lancer super vite. Donc c'est une tendance à faire rapidement les choses ou à dire rapidement les choses, mais ce n'est pas de l'impulsivité. Je vais insulter ma maîtresse,
je vais taper
sur un pote.
Bien sûr.
Ça, c'est important à rappeler.
Eh bien, merci à tous les deux. Vous restez évidemment avec nous. On ne fait que commencer cet entretien dans lequel on va tout vous dire sur ce matin sur le TDAH et donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'ailleurs, comment savoir si nos enfants ou nous-mêmes, d'ailleurs, en sommes atteints ? Comment le gérer au quotidien ? On va reprendre les bases dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Et ce matin, on vous pose cette question. Vous le gérez comment, votre TDAH, votre trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou celui de votre enfant d'ailleurs? Pour en discuter, nous sommes toujours avec le docteur Louis Vera, pédopsychiatre à Paris, spécialisé notamment dans ce trouble. Et puis avec nous également Adrien Devivert, animateur et journaliste et l'auteur du livre « On m'appelle la tornade, parcours de vie d'un créatif encombrant » chez Kenes Éditions. Docteur Vera, on parle ce matin des personnes souffrant d'un TDAH, parfois nommé les hyperactifs. Je crois que vous voulez plus qu'on les appelle comme ça. C'est quoi le bon mot alors pour les décrire?
Ah, je ne supporte pas le terme d'hyperactif.
Oui, mais quand il y a le H,
il est tellement connoté en fait.
Ça veut dire
connoté
chiant.
Connoté péjorativement. Bah oui. Et effectivement, quand on dit hyperactif, on pense chiant.
Surtout pour les gamins.
Et ouais, c'est souvent que les parents viennent me voir en consultation et ils me disent bon, je ne pense pas qu'il soit TDAH parce qu'il est tout le temps en train de rêver, il n'écoute pas la maîtresse. Pour les devoirs, ça nous prend 2 heures, il est hyper lent. Mais par contre, il reste assis sagement sur sa chaise. Et parfois, vous avez même des médecins scolaires qui tombent dans le panneau et qui vont recevoir les parents pour mettre en place des aménagements scolaires qui sont extrêmement importants et qui vont dire aux parents bah, regardez, ça fait 15 minutes que votre enfant est assis, il n'a pas bougé, donc en fait, il n'est pas TDAH. Mmh. Donc c'est pour ça que le terme hyperactif, je trouve qu'il n'est pas adapté. Et puis, comme je dis toujours, bouger, ça fait partie de la vie. Et il n'y a pas de norme pour dire à partir de quel moment c'est pathologique.
Donc ça veut dire qu'on pourrait être hyperactif sans bouger. C'est-à-dire qu'un gamin rêveur, potentiellement, il est TDAH.
Bah, en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, le noyau central de ces difficultés, c'est d'avoir du mal à se concentrer et des difficultés à s'organiser. Donc on a beaucoup de troubles, que j'appelle maintenant troubles dysfonctionnels de l'attention, qui passent leur temps à regarder par la fenêtre.
Ouais. Et ensuite,
docteur, et qui sont récupérés par les enseignants.
Adrien, vous avez été diagnostiqué très tard, à 35 ans à peu près. Comment ça s'est passé dans votre enfance du coup avec ce trouble qui n'était pas dépisté? Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour vous à l'école ou à la maison d'ailleurs?
Mais là, je pense qu'on vient d'en avoir un petit résumé. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'étais toujours un peu en marche. C'est comme ça que je me suis représenté en tout cas quand j'étais enfant. Parce que ce n'est pas toujours évident de se replonger non plus dans les souvenirs d'enfance de 6-7 ans. Mais j'avais toujours cette impression-là effectivement d'être toujours un petit peu soit trop tôt, soit trop tard, soit un peu trop à gauche, un peu trop à droite, mais jamais vraiment dans ce qu'on appelle les normes. En tout cas dans l'enseignement, hein. Donc voilà, effectivement chacun est différent, on le disait tout à l'heure avec le docteur. Mais donc il y avait quelque chose qui clochait un petit peu par rapport à mes potes, par rapport à ma famille aussi.
Et les profs, vous voyez comment?
Alors ben, moi ma première remarque dans mon premier bulletin là, c'était quel Spirou, voilà, et puis ça a continué comme ça pendant toute ma scolarité, c'est-à-dire que j'étais responsable de l'ambiance en classe, je m'occupais effectivement après 5 minutes de cours de commencer à chahuter tout le temps parce que j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à écouter ce qui se passait en classe.
Mais du coup vous étiez en échec scolaire vous ou pas?
Alors au début non, parce que visiblement ma mémoire, et ça pourrait être intéressant de l'aborder avec le docteur aussi, ma mémoire en fait elle parvenait à retenir ce qui se disait dans la classe même si j'y étais pas attentif. Et puis en fait petit à petit au moment où j'ai commencé à devoir travailler, à devoir étudier, à devoir être un petit peu plus concentré, donc ce qu'on appelle les humanités chez nous, à partir de 12 ans en Belgique, ben là c'est devenu le carnage et effectivement les résultats n'ont pas suivi non plus.
Alors je crois que vous avez visité Adrien une école exemplaire, l'école qui s'appelle Grandir Autrement et qui est dédiée uniquement à ses enfants, et vous dites c'est ça qui nous faudrait à tous, enfin à tous ceux qui sont atteints de ce trouble. Mais elle avait quoi de spécifique cette école?
Bon là on entre dans un autre débat, est-ce qu'on fait une école spécifique uniquement pour les personnes TDA et tous les 10 qu'on peut faire venir ensemble et avoir un enseignement spécialisé à ce propos, ou est-ce qu'on travaille dans l'inclusif? Voilà, ça c'est un débat qui se vaut. Maintenant là en l'occurrence ce qui était vraiment très sympa, c'est que les élèves étaient pris en charge du début à la fin avec énormément d'activités physiques, parce que ce sont des élèves qui avaient ce fameux TDA avec cette hyperactivité, parce que je rappelle qu'il y a une barre entre le H et le enfin entre le A et le H qui dit avec ou sans hyperactivité, en tout cas c'est comme ça qu'on le dénomine au niveau scientifique. Et donc là, ce sont des enfants qui avaient besoin de bouger, besoin d'énergie, besoin de beaucoup de choses à faire pendant une journée de classe. Et ils étaient très bien accompagnés et très bien encadrés, effectivement.
Docteur, est-ce qu'il faut nécessairement d'ailleurs consulter? Et qu'est-ce qui doit nous faire penser, nous parents, que notre enfant a peut-être ce trouble? Alors avec, sans H, enfin peu importe, un trouble de l'attention et peut-être des difficultés avec. Est-ce qu'après tout aussi, il ne pourrait pas s'adapter et aller très bien, finalement, sans poser d'étiquette?
Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, on peut tous avoir du mal à se concentrer. Et ça m'arrive de recevoir des parents pour des difficultés d'attention et de leur dire bah « Regardez, votre enfant a visiblement du mal à se concentrer. C'est rapporté dans les bulletins, c'est rapporté par les enseignants. Mais les résultats scolaires sont excellents. Et surtout, votre enfant ne souffre pas de cette difficulté d'attention. »
Donc foutez-lui la paix.
C'est pas foutez-lui la paix, c'est on va surveiller parce que avec la charge de travail plus importante, peut-être que plus tard il y aura un retentissement plus important, mais c'est pas la peine de venir consulter quand on voit que son enfant a du mal à se concentrer, mais que finalement il n'y a pas d'impact dans sa vie scolaire, dans sa vie sociale, et qu'on n'est pas en train de pleurer tous les soirs à faire 2 heures ou 3 heures de devoirs au CP.
Oh, moi, j'ai mis des coups de cahier sur la tête de mon fils pendant que ça rentrait pas. Et
je... Pas dire ça, Julie.
Mais si, je l'ai dit. Et je m'excuse.
Non, mais on va la justifier. Non, non. Le stress, ça marche. Ah, non. L'adrénaline, ça aide à se concentrer.
Mais vous êtes d'accord que parfois les parents sont démunis, mais vous êtes en train de nous dire qu'on peut avoir un TDA ou H ou pas, mais ne pas être en échec scolaire.
Ce qui vraiment va faire qu'on est en échec scolaire, c'est les troubles 10. Qu'on voit souvent chez les jeunes qui ont des troubles de l'attention et qui, en fait, ne sont pas une comorbidité, parce que ce n'est pas une morbidité, le trouble de l'attention. Ces troubles-là entraînent une fatigue supplémentaire au niveau cognitif qui fait que l'enfant qui fatigue en se concentrant fatigue deux fois plus vite. C'est ceux-là même qui entraînent le plus souvent un échec scolaire.
D'accord. C'est les 10 qui sont aussi, qui ont aussi un trouble de l'attention.
C'est les 10 qui entraînent le plus souvent des échecs scolaires. Et après, vous avez beaucoup de TDA qui ne sont pas du tout en échec scolaire, qui réussissent parfaitement dans leur vie. Et je tiens à dire une chose aussi. On parle beaucoup en ce moment des hauts potentiels en disant qu'ils sont tous foutus. Ce qui est une énorme connerie, parce qu'en fait, 95% des hauts potentiels ne consultent jamais. Et pour les TDA, c'est pareil. Ils ne consultent pas tous.
Adrien ?
Je pense que ce qui est important, c'est de sortir un peu du cadre scolaire aussi. Il y a la vie sociale autour, il y a les amis, il y a la famille. Moi, c'est celle-là aussi que j'ai rencontré beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que j'ai rencontré souvent des ruptures amicales parce que j'étais de nouveau un peu ailleurs, parce que j'écoutais pas ce qu'on me disait, parce que effectivement, quand j'allais à mes leçons de tennis, j'écoutais pas ce que le prof disait.
À table, les repas chez vos parents, je pense que c'était très compliqué.
Aussi, ça allait toujours, en fait. Moi, je sais pas tenir. Je sais pas tenir à une table. Je sais pas rester assis, commencer à parler avec des gens. Il y a 1000 choses qui passent dans ma tête et je dois me lever pour aller les réaliser. Et donc, là aussi, il y a un impact. Donc, effectivement, il y a l'enseignement. Et ça, je pense que de manière globale, l'enseignement doit être vu, que ce soit pour les 10 ou pas. Et puis, il y a tout l'aspect familial et l'accompagnement qui doit être mis en place par les parents, qui est parfois un peu plus compliqué.
Alors, on a eu un message d'une auditrice qui dit « Bonjour, ma fille de 15 ans est diagnostiquée depuis longtemps. Les maîtresses de maternelle n'étaient pas vraiment au top. Elle ne comprenait pas que ma fille était attirée par un bruit extérieur, par un enfant qui bouge dans la classe. Ma fille a plusieurs 10 aussi, un trouble important de la mémoire de travail. Par contre, elle souffrait de ce problème actuellement en unité spécialisée avec des inclusions. Et oui, j'ai été moi aussi très démunie. C'est vrai qu'on pourrait peut-être aussi parler, docteur, des parents qui sont un petit peu démunis avec ces troubles-là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ?
Bah, les parents, ça... pas trop quoi faire. En fait, la difficulté en France, c'est qu'on ne sait pas où se tourner. Moi, j'ai vu que le 10 juin, le gouvernement a mis une page, c'est une micro-page sur le TDAH, une page d'information. Mais ça ne suffit pas, en fait, parce que les médecins scolaires ne sont pas formés, les enseignants ne sont pas formés, les parents ne sont pas informés. Et finalement, quand un enfant a du mal à se concentrer, le premier réflexe, c'est un réflexe vieux d'il y a 30 ans, c'est de dire aux parents « allez voir une orthophoniste ». Bon, et l'orthophoniste, par rapport au problème d'attention, elle ne peut rien faire. Et maintenant, de plus en plus, on dit il y a des problèmes en classe, il dérange. C'est soit un haut potentiel, soit un TDAH. Mais ça peut être plein de choses différentes. Le premier réflexe pour les parents, c'est d'aller voir un médecin. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas voir un médecin spécialisé.
Le généraliste, déjà, ça peut être un premier pas.
Les généralistes ne sont pas formés.
Ouais, donc, on va voir qui alors.
Donc, certains pédiatres sont formés. Il y a des réseaux de médecins qui connaissent ces difficultés-là. Mais le premier réflexe, ça ne doit pas être de faire un test de QI, parce que je vois une quantité astronomique de parents à qui ça coûte très cher de faire un test de QI qui ne donne pas de réponse. Le test de QI,
ça
c'est
un chiffre
test
et puis
qui
voilà,
a été
quoi.
Inventé, développé, pour donner une idée de la présence de troubles 10 ou non. Ça n'a jamais été fait pour diagnostiquer un TDAH. C'est la clinique qui est le plus important. Donc les parents devraient toujours aller voir en premier lieu un médecin quand ils ne savent pas quoi faire.
Bon, on va détailler encore ces choses-là dans un instant. Vous restez avec nous, on n'en a pas fini avec le TDAH, le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. D'ailleurs, on a beaucoup parlé des enfants, mais que se passe-t-il pour eux à l'âge adulte ? Ça ne disparaît pas ce trouble, alors comment le gérer à la maison, au boulot ? On vous dit tout dans quelques minutes, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce focus aujourd'hui sur le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. On fait le tour de ce sujet avec le pédopsychiatre Louis Vera, ainsi qu'Adrien De Viver, journaliste et animateur, l'auteur du livre « On m'appelle la tornade, parcours de vie d'un créatif encombrant » chez Kenes Éditions. Alors dans votre livre, Adrien, vous racontez plusieurs anecdotes de votre quotidien même d'adulte, d'adulte hyperactif. Et par exemple, vous dites que ce qui est difficile pour vous, c'est de planifier planifier des courses. Pourtant, je sais pas, faire une liste, partir au magasin, pas très compliqué quand même.
Oui, c'est pas très compliqué, sauf qu'à partir du moment où je fais les courses, je vais être stimulé par des mots qui vont me faire penser que je dois aller absolument récupérer les poires que j'avais mises dans mon coffre de ma voiture et que j'ai oublié d'enlever. Et donc, du coup, ma liste, je vais commencer à la créer, mais je vais jamais la terminer. Ça, c'est une première chose. Une fois que je vais arriver au magasin avec une liste qui est pas terminée, je vais acheter tout sauf ce qu'il y a sur ma liste parce que je vais tout le temps être stimulé par autre chose, que ce soit par des gens qui m'interpellent dans le magasin, que ce soit par une promotion avec de la musique ou que ce soit par un enfant qui pleure. Il y a toujours des choses en fait qui vont me détourner de ma cible. Mmh. Alors bien sûr, le docteur le disait, ça arrive à tout le monde et donc effectivement, les gens se disent bah oui, mais moi aussi c'est mon quotidien. Mmh. Sauf que moi c'est tout le temps en fait. Je ne suis encore jamais rentré à la maison avec une liste de courses.
Du coup, c'est votre femme qui fait les courses, j'imagine. C'est
non,
plus simple.
Non, même pas.
Par contre, je crois que vous avez une collection de sacs réutilisables pour le supermarché parce que vous l'oubliez toujours à la maison, c'est ça ?
Ouais,
j'ai la même.
Ça, c'est vrai. On peut faire des échanges.
Là, ce que j'entends et qui est caractéristique des troubles de l'attention, c'est la difficulté à anticiper la tâche aussi. Mm-hmm. En fait, la difficulté à planifier, parce que planifier une tâche, ça a un coût en termes d'énergie. Et ça, c'est difficile pour les personnes qui ont un trouble de l'attention.
C'est anxiogène, en fait.
Et en même temps, c'est vachement bien de planifier, non ? Du coup, est-ce que c'est une des clés ? Est-ce que c'est
une des meilleures clés quand on a un trouble de l'attention pour le compenser à l'âge adolescent et même à l'âge adulte, c'est effectivement d'apprendre à s'organiser. Plus on est organisé, moins on a de difficultés d'attention.
Ouais, mais alors la vie devient embêtante.
Mais non.
Ah ben si.
Julia est très organisée, lui dites
mais
pas ça, elle adore l'organisation.
Mais je rejoins l'histoire de l'adrénaline.
Je ne suis pas en train de parler des vacances aux Caraïbes où on va se dire qu'à 7h57 on prend le petit-déj, à 8h12 on est sur le transat, à 8h25 on va se baigner et à 8h35
Julia,
on va demander
un
à une belle nana sur la plage de nous mettre de l'huile sur le dos.
Non mais moi je
anticiper certaines tâches.
Mais je crois que je découvre avec vous, j'ai probablement un trouble de l'attention et qu'effectivement le fait de s'organiser est très très utile. Moi je note même mes moments de répit, je les note dans mon agenda pour pas oublier de me
les
reposer.
Pauses. Ouais.
Les pauses, c'est important pour se régénérer, pour récupérer un petit peu d'énergie.
Méditation de pleine conscience.
Bon docteur, comment on le pose ce diagnostic ? Est-ce qu'il y a un test spécial quand même à passer ? Vers qui on se tourne en 2022 quand on pense qu'on est un peu démuni face à un enfant justement qui a ce problème-là et qu'on veut savoir quoi ?
Les médecins diront toujours que le plus important, c'est la clinique. La clinique, c'est quoi ? La clinique, ce sont les symptômes. Quand je reçois des parents, je leur demande de m'amener tous les bulletins scolaires et je vais regarder ce qu'ont noté les profs au fil des années.
Depuis toujours.
J'envoie un questionnaire aux enseignants pour qu'ils me rapportent comment ça se passe. Et l'enseignant qui va nous dire « cet enfant a du mal à se concentrer, je le repêche de temps en temps », ça ne veut pas dire grand-chose. Mais l'enseignant qui dit « cet enfant ne se lance pas dans la tâche si je ne suis pas derrière lui et ne termine pas sa tâche si je ne vais pas le recentrer régulièrement », là, ça veut dire quelque chose.
Est-ce que la génétique, enfin l'hérédité, compte ? Parce qu'on a Michel sur Instagram qui demande si ce trouble est héréditaire ou pas.
Alors, comme je disais tout à l'heure, on a une construction de symptômes qui est là pour décrire des difficultés. Il n'y a pas de réalité sous-jacente d'un point de vue macroscopique, en tout cas au niveau du cerveau qui a été trouvé. Mais ce qu'on sait, c'est que finalement, on est tous différents, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on retrouve des familles où on peine un peu plus à se concentrer que dans d'autres. Et c'est pour ça aussi que certains parents ne sont pas choqués quand ils voient que leur enfant a du mal à se concentrer.
Un peu comme eux, quoi.
Un peu comme ça aussi.
C'est une famille.
Ou des parents qui se font diagnostiquer parce que leur enfant s'est fait diagnostiquer.
Ça, ça arrive très souvent, bien sûr. Alors justement, quand il y a un TDA, quels sont les aménagements qui peuvent permettre d'améliorer la situation, notamment à l'école ou même dans la vie tout court de ces patients ? Comment on peut les aider, ces petits patients ?
Le plus important, déjà, c'est d'informer les parents et de leur dire que leur gamin a du mal à se concentrer, du mal à s'organiser, qu'il va falloir s'asseoir à côté de lui pour les devoirs et qu'il va falloir instaurer un bon groupe WhatsApp de parents pour récupérer les leçons que le gamin a oubliées en classe. Voilà. Donc ça, c'est le plus important, c'est finalement les aménagements et l'accompagnement. Et au niveau scolaire, on est en retard en France. Hein. On a à peu près 277 ans de retard. Parce que le plus important, c'est de former les profs, ils ne le sont pas. C'est de réduire le nombre d'élèves par classe. On est en moyenne à 30, pas à 25, comme il le dit sur le site du gouvernement. Et finalement, c'est de pouvoir avoir des enseignants qui, en ayant moins d'élèves par classe, vont pouvoir dire « toi, tu as du mal à te concentrer, je vais te mettre plus près de moi, je ne vais pas te mettre au fond ». Parce qu'il y a plein de distracteurs et je vais te laisser un peu plus de temps pour faire les tâches, un peu plus de temps sans bouffer sur la récré parce que le gamin aussi il a le droit de se reposer.
Donc ça on peut le mettre en place avec l'école. Hein.
Adrien, dans votre livre il y a votre femme qui témoigne avec beaucoup d'amour mais qui avoue que vous êtes vraiment épuisant au quotidien.
On l'a plein.
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Alors pour être moins épuisant justement, même pour vous-même, hein, parce que parfois vous vous fatiguez vous-même, vous dites vous faites notamment beaucoup de sport, ça vous aide à évacuer de l'énergie, c'est important de bouger.
Oui, c'est important de bouger parce qu'effectivement, moi, j'ai la mention hyperactivité aussi dans ce TDAH. Et puis, deuxièmement, ça me permet aussi justement de faire de l'exercice cognitif de concentration. C'est-à-dire que quand je fais du tennis ou du golf, par exemple, je dois me focaliser sur quelque chose d'important, sur cette balle jaune, sur cette balle blanche quand c'est du golf. Et donc, ça oblige mon cerveau à faire des exercices de concentration pour un court laps de temps. Mais en tout cas, je dois vraiment parvenir à me focaliser, à me centraliser.
Le sport pour ces enfants, oui.
Alors, ça fait pas vraiment un exercice.
Ça fait toujours de bien de faire du sport, quel que soit l'enfant.
Pour l'attention, dans le sens où on n'entraîne pas les mêmes fonctions cognitives. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes fonctions cognitives pour se concentrer en fonction des tâches qu'on va faire. Le mieux, en fait, c'est la méditation pleine conscience. Alors, les gamins,
le sport peut passer par la méditation pleine conscience. Jouer au golf, c'est de la méditation pleine conscience quand on doit se concentrer sur la balle avant de la taper.
C'est très court.
Oui.
C'est des instants d'attention très courts et donc ça ne fait pas un entraînement. La méditation pleine conscience, c'est vraiment des sessions de 15 minutes, 20 minutes. Et ça permet d'ancrer les personnes dans le présent et ça peut marcher. Après, une chose réelle, c'est que le sport, c'est bon pour la santé en général.
Le
sport, ça oxygène le cerveau et les personnes qui font du sport régulièrement se concentrent mieux.
Alors, autre chose, alors là, on a plus de réserves parce que ça fait peur. On va parler de la Ritaline, c'est ce médicament stimulant. Est-ce qu'il est utile ou pas pour les TDA au final? Est-ce que vous en prescrivez, vous, souvent?
Alors, la Ritaline, j'en prescris tous les jours. Mais je tiens à dire une chose, c'est que la Ritaline, c'est pas un traitement de première intention. J'entends parfois des parents me dire, on a vu un médecin, il nous a reçu 15 minutes, il nous a donné une ordonnance de Ritaline sans explication, et du coup on est reparti, choqué. Et je suis d'accord avec eux. La Ritaline, c'est, je dis toujours, la cerise sur le gâteau, et on n'a pas toujours besoin d'une cerise sur un gâteau. Avant, il faut construire la base, il faut poser un diagnostic complet, voir si on a d'autres difficultés comme des troubles 10 ou un trouble anxieux ou des troubles du sommeil. Ensuite, il faut mettre des prises en charge adaptées. Après, il faut mettre en place des aménagements, informer les parents, informer l'enseignant, éventuellement de la remédiation cognitive. Si ça ne suffit pas, on peut envisager un traitement.
D'accord, ben c'est très clair. Et ce traitement, ça peut bien se passer?
Ce traitement, ça peut très bien se passer à condition de suivre son patient et surtout de l'écouter quand il se plaint d'effets indésirables, parce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables de ces traitements-là qu'on peut améliorer simplement en diminuant les dosages de traitement.
Et donc, on reste très bien accompagné pour tout ça. Merci beaucoup, tous les deux, pour cet entretien. On y voit plus clair sur ce trouble qui est loin d'être une fatalité. J'espère que nos conseils vous auront aidé.
Merci encore, Julia. Maintenant, on va basculer vers la séquence tendance de Bienfaits pour vous. Dans un instant, Vincent Busset va nous aider à préparer la fête des pères avec des idées cadeaux dans le secteur de la déco. Et puis, Sophie Braffman sera aussi avec nous. Elle va nous dire quelles sont les tendances chaussures cet été. Claquettes, tongs, sandales, sabots, il y en aura pour tous les goûts. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être, dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins de 11h à midi et en direct. Et maintenant, c'est notre partie consacrée aux tendances qui démarre à présent. Je me tourne d'abord vers vous, Sophie Braffman. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous allez nous présenter les chaussures de l'été 2022. Oh là là. Et je crois qu'on ne va pas être déçus d'après
ça. On a un peu dans votre dressing, là. Il y en a un paquet de chaussures.
Alors écoutez, je vous ai ramené une sacrée sélection. Je sais que Mélanie avait envie de voir des choses. Et j'ai vraiment axé sur la couleur, je crois, cette saison.
Bizarrement, il n'y a pas que du beau, on en parlera.
Justement, il y a du moche, c'est pour vous, vous allez voir.
Merci Sophie. Avant de trouver chaussures à notre pied, on va déjà préparer la fête des pères avec vous, Vincent Busset, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pas mal d'idées cadeaux pour les papas qui aiment la déco.
Exactement. Est-ce que vous avez déjà offert des cadeaux déco pour la fête des pères?
Jamais, honnêtement. Non. J'étais surprise par ce thème de chronique, justement.
Ben oui, c'est bien. C'était pour...
Non, mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui sont intéressés par la déco, mais en tout cas, chez moi, il n'y en a pas.
Justement, l'idée, ça va être de vous convaincre d'offrir un cadeau déco à votre papa, parce que ça va changer un petit peu de la perceuse, de la cravate et du mug meilleur papa du monde. Donc, je vais vous proposer des petits objets et j'espère réussir à vous convaincre d'offrir un cadeau déco pour votre papa.
En plus, c'est bien.
Oui. Puis l'idée, c'est peut-être lui donner goût à des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, une petite étagère à vinyle, si c'est un
méloman. C'est pour les papas qui aiment la musique.
Alors, concrètement, c'est une étagère toute simple.
Je vais la prendre.
Je vais vous montrer après comment ça marche avec le vinyle.
Vous pouvez la voir sur nos réseaux sociaux.
Elle est toute simple, elle est minimaliste.
C'est clair, en bois.
Exactement. Joli. C'est des matières masculines pour le coup, puisqu'on a du chêne et du cuir. Et concrètement, c'est deux morceaux de chêne reliés par une lanière en cuir. On l'accroche au mur et après, on vient glisser les vinyles dedans. Donc, je vous en ai pris un. Et ce qui fait que ça transforme le vinyle en objet de décoration.
Bon choix, bien.
Et
toi,
comment on met le truc?
On le glisse dedans et du coup, le vinyle devient un objet de décoration à part entière. Oui. On peut glisser pas loin de 15 vinyles quand même, ce qui n'est pas rien. C'est une marque qui s'appelle Copo Création qui fait ça et c'est entièrement fait à base de chutes de meubles, parce que la marque produit également des meubles. Donc, c'est une sorte de recyclage. Ça vaut euros, pas très cher, ça vaut 59 euros. On peut mettre 15 vinyles et ça permet surtout de bien les stocker parce qu'il ne faut jamais poser les vinyles à plat parce que ça les déforme.
Ah.
Donc on doit toujours stocker un vinyle de manière verticale.
C'est joli, en tout cas, cet alliage bois et cuir hein, en étagère, c'est très beau.
Mur,
c'est
oui, on peut l'accrocher. Bah, c'est une étagère là-bas, donc c'est plutôt fait pour. Non, mais ce que je veux dire, effectivement, on pourrait se poser la question de le poser, mais ça manquerait de stabilité.
Vous pouvez mettre sur votre tête aussi, si ça vous fait
donc
plaisir.
On fait comme ça, excusez-moi, je montre.
Oui, enfin vous montrez
sur europe.fr.
Voilà. Bon, elle n'a pas compris, mais semble-t-il, si on a compris.
Voilà, exactement.
D'accord.
On va y arriver.
Bon, mais enfin, bref, c'est une étagère en bois qui se colle au mur comme une étagère.
Mais c'est surtout qu'en gros, le vinyle devient un objet de décoration. On peut changer régulièrement le vinyle et comme ça, on change de décoration facilement.
Bon, pour les papas qui sont plutôt accros au travail,
alors,
est-ce que vous avez une idée?
Oui, je vous ai ramené des petites choses. Alors, pareil, c'est une marque qui est spécialisée pour les hommes. Donc, ça s'appelle Café Laser. Et à la base, c'était des petits accessoires de mode. Donc, il y avait des porte-clés, des sacs, des gants. Et ils se sont lancés dans la production d'accessoires toujours pour hommes et pour la maison. Et donc là, je vous ai ramené quelque chose de très simple. C'est un sous-main en cuir, donc il fait 60 par 40 cm à peu près, un tapis de souris dans une autre finition. Mm-hmm. Et ce que j'aime bien, là, évidemment, c'est la matière surtout qui est intéressante parce que ça va se patiner avec le temps.
Joli.
Et notamment ce modèle, donc le sous-main qui est en cuir, qui est laissé brut et qui n'est pas traité, ça me fait penser un petit peu au poignet des sacs Louis Vuitton. Je ne sais pas si vous avez déjà vu.
Ça pourrait plaire à mon papa, je crois. C'est très et joli, je trouve.
Et ce qui est intéressant, du coup, il va se foncer comme les poignées des sacs. À force de le porter, ça va vivre avec son propriétaire et c'est un cadeau qui va vivre et qui va s'installer dans le temps.
Et
ça,
bien vieillir,
bien.
Comme
ouais,
nos papas.
Et pour les papas voyageurs.
Alors, voyageurs, je vous ai ramené. Alors, c'est un petit peu plus gros. Je l'ai encadré en plus.
Oh, c'est beau.
Alors,
qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une marque qui s'appelle La Majorette à moustache et qui propose des affiches basées autour de la culture française. Donc, on va retrouver de la gastronomie, de l'automobile, on va retrouver bien évidemment également des voyages. Et donc, en gros,
c'est comme à l'aéroport, là.
C'est une affiche avec
Bogota, Athènes, Bangkok, Barcelone, les horaires de vol. C'est une belle affiche.
C'est toutes les destinations à partir de Paris. Et donc, on a toutes les informations de vol, effectivement. Et ça reprend un petit peu le graphisme des tableaux qu'on peut retrouver, les tableaux de départ des aéroports. Alors que ce modèle-là vous plaise ou non, c'est pas très important. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein d'affiches proposées pour la fête
Havane,
des pères.
Bon, papa, c'est 9h55 de trajet quand même, c'est long. Hein.
Et puis il y a des décalages horaires, et puis il y a le nom de l'aéroport international. Enfin, c'est rigolo.
Ça fait rêver.
Oui, exactement, ça fait voyager. Et puis alors, on peut s'adapter aux loisirs de son papa. Ça peut être l'automobile, ça peut être plein de choses, la gastronomie, le rock. Là, voilà, c'est présenté comme ça. Donc c'est dans un petit tube en carton. Là, c'est l'anthologie du rock français. Et moi, je vous ai encadré cette affiche-là.
Voilà. Bon, Vincent, je crois que vous avez pensé aussi, on va terminer par ça, par
exactement.
Les papas qui sont fans d'architecture.
Oui, et pour les enfants qui ont un petit peu plus de moyens, parce que là, on est sur un objet qui est un petit peu plus haut en prix, on est à 170 euros. Mais c'est un très bel objet, donc c'est fait à la main. C'est une marque qui s'appelle Chisel & Mouse, qui veut dire ciseaux et souris, mais souris d'ordinateur pour le coup, parce que les moules sont faits avec une imprimante 3D et concrètement, ça reproduit des façades de bâtiments célèbres du monde entier. Donc ça a été créé par deux frères passionnés d'architecture qui sont anglais. Donc à la base, on avait principalement des bâtiments anglais. Et puis, comme il y a eu beaucoup de succès, ils ont créé ensuite des bâtiments de New York. Je ne sais pas si vous connaissez le Flatiron à New York. Voilà, on peut le retrouver comme ça. Donc, c'est une petite
sculpture en
plâtre. Donc, c'est numéroté derrière au dos, on voit que
c'est lourd.
Et ça peut s'accrocher au mur ou ça peut se poser sur une étagère. Et pour la France, on a désormais la Cité Radieuse de Marseille et la Villa Savoie qui
est à Poissy. Donc, comme ça, en mini-sculpture,
c'est du plâtre blanc. Et ça fait environ 20 à 40 cm. Voilà.
Bon, bah, merci Vincent.
Pas mal, hein,
toutes ces inspirations. Merci Vincent. Bon, si dans votre sélection, on n'a malgré tout pas trouvé ce qui plairait à notre papa, qu'on va gâter dimanche, il y a peut-être ce qu'il faut dans la besace, dans le dressing de Sophie Braffman.
Pas
je suis
sûr.
Un peu perplexe, hein, c'est assez fille quand
mais
même.
Vous allez voir, je vous ai fait une petite catégorisation par thème. Les filles, vous êtes toutes des shoes addictes. Je suppose, non? Oui, quand même.
Bah oui, quand même.
Est-ce que vous savez qu'il y a un terme en français pour dire shoes addict, puisque c'est un terme anglais?
Ah non?
Non, et bien on appelle ça une calcéologiste. C'est moche, hein?
Voilà.
Ouais, c'est moche, je suis d'accord avec vous, mais bon, ça aurait pu être pire. Donc écoutez, moi je vais vous proposer une petite sélection parce que cette saison, il y a énormément de modèles de chaussures, donc j'ai dû bien évidemment choisir. Alors, on va commencer avec les sabots, qui est un incontournable de la saison, absolument. Les sabots, parce qu'il y a un revival 70s, évidemment, c'est un grand classique. Alors peut-être que vous avez peur de mal marcher avec les sabots.
Tout à fait.
Pourquoi? Parce que le sabot est lourd. Eh bien, celui que je vous ai ramené est en bois de tilleul, donc très, très léger, peut-être on l'entend un peu. Vous allez voir comme il est... J'ose presque vous le jeter tellement il est léger, mais peut-être pas quand même. Alors, non, il est. Vous voyez comme il est léger.
Bois. J'ai cru que c'était un peu plastifié, mais non c'est du bois
du
très
tout.
Léger.
Alors, ce sont les sabots You-You. Alors, pourquoi You-You? Parce que c'est monsieur et madame You en Vendée, et contraire, pas du tout.
C'est ma taille.
C'est pas vrai. Je sens que vous allez aimer ce sabot. Donc, il existe sous différents coloris ouverts, et c'est une marque très ancienne qui date du début du 19e siècle, qui est une marque vendéenne. Donc, je trouvais ça assez joli de réhabiliter. Oula, ça y est, elle est partie avec ses sabots, avec la jupe. Écoutez, prenez donc le sabot. Celui-ci, il irait bien.
Vos vêtements voilà. En plus, un espèce de verre d'eau, un petit
verre
peu.
D'eau, hein, exactement. Donc, on a un sabot à la fois sous forme classique, celui qu'on vient de voir, et en même temps des sabots complètement ouverts, donc quelque chose de beaucoup plus estival. Alors, je continue avec un autre indispensable de cette saison, c'est l'espadrille. Et contrairement à ce que disaient les nuls, non, en espadrille, on ne pue pas des pieds, pas du tout. L'espadrille est ouverte, est agréable. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait un imprimé un peu ringard qui revenait sur le devant de la scène, c'est le Vichy.
Vincent, oui, en maillot de bain, vous avez dit cette année, voilà. C'est le maillot Vichy.
Alors, eh bien, on a l'espadrille Vichy, l'espadrille compensée, puisque le compensé, on a des talons dans tous les sens hein, cet
on
été.
On rappelle, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, le Vichy, c'est le petit carreau blanc et bleu ou blanc et rose.
Voilà, voilà. Blanc et rose pour un côté très Brigitte
c'est
Bardot.
C'est du petit carreau.
Voilà. Voilà, du petit carreau. Et donc là, on a une espadrille donc, qui va se nouer sur le mollet pour éviter de se faire une petite torsion. Donc ça, c'est agréable aussi. Et compensée, parce que comme ça, elle allonge un peu la silhouette et qui est très jolie. Et donc ça, c'est chez Carrel.
C'est un petit côté l'amour est dans le pré. Hein.
Exactement. Et donc, on est sur une fabrication française aussi. Donc je trouvais ça pas mal de le préciser.
Bon, sinon, un truc étonnant, c'est le retour de la fourrure en été. Ah, mais sérieusement, alors, Sophie Braffman
mais alors, très très sérieusement, hein, vous vous rappelez de ces fameuses bottes popularisées par Pamela Anderson, hein, les UGG qu'on portait aussi l'été sur la plage. Eh bien, la marque UGG a eu la bonne idée de faire des sandales moumoutes. Mmh. Alors, il y a un énorme revival années 90 sur la tongue compensée, la sandale compensée. Le goût du moche, on le sait, c'est le nouveau beau. Alors, il y a la Gay Pride le week-end prochain, pas ce week-end-là, mais celle d'après. Donc, on l'a sortie. Julia va les essayer.
Arc-en-ciel moumoute, quoi.
Exactement. Et donc, c'est la UGG Pride.
Elle est très, très poilue, hein, cette sandale, quand même, moi, je trouve.
Très poilue. Hein, ouais. C'est ce qu'on appelle en mode une pièce image. Donc, oui. Attention, voilà. C'est une pièce. Voilà.
Je vais la laisser à Julia.
C'est une pièce qui se suffit elle-même. Mais vous connaissez parfaitement la pièce image. On ne va pas la juxtaposer avec d'autres imprimés. Alors, ce qui est intéressant quand même dans ces sandales ultra compensées, donc je vous ai dit, il y a vraiment ce côté de la tongue compensée, hein, qui est un truc 90, je vous fais une image. Elle est plus classique. Celle-là, c'est le modèle Fluffy. Éco-responsable. Ah ouais. Pourquoi?
Parce qu'on peut décrire un peu la sandale, alors, s'il vous plaît.
Elle est donc dans une couleur corail avec une semelle assez compensée, plutôt claire, qui est faite en lyocell, donc c'est de la fibre d'eucalyptus, et aussi en résidu de canne à sucre. Donc,
et le dessus est en éponge, un
le
peu,
dessus,
tissu éponge.
Exactement,
un peu, hein,
donc c'est parfaitement la sortie de bain idéale quand vous êtes au bord de la piscine ou de la mer cet été.
Je trouve que ça passe mieux que la moumoute arc-en-ciel.
Oui,
quand même, hein.
Oui, la moumoute arc-en-ciel, je sens. Bon, Mélanie, on va bifurquer vers des choses un peu plus traditionnelles.
Oui,
ou
s'il
alors,
vous plaît.
Si vous êtes toujours sur cette idée, de tongs compensés, regardez chez Jonac par exemple, voilà, alors un modèle un peu camel, puisqu'on a aussi ce genre de coloris même pour l'été, pourquoi pas.
Ça peut être pour homme aussi.
Ça,
hein,
exactement.
Du
Vincent,
dinde,
vous cherchiez exactement de la suédine, vous cherchiez une sorte de chaussure.
Ben, parce que par 40 degrés, c'est pas facile quand
et
on
ben,
a un homme.
Je vous conseille d'essayer celle-ci, je ne suis pas sûre qu'elle soit à votre taille.
Non.
Ou alors, on a, vous savez, dans l'imprimé, je vous avais parlé aussi de l'imprimé bandana un peu, qui fait aussi son grand retour et qui est là. On l'a aussi dans une version plus soft chez Claudie Pierlot. Donc,
ah,
qui
n'est
pas
d'accord.
Une marque de chaussures initialement, mais on va avoir des brides en fait avec des imprimés.
Donc on dirait deux bandanas qui tiennent le pied en fait.
Exactement,
hein, c'est ça, hein, c'est
deux bandanas
joli.
Qui tiennent le pied et qu'on peut nouer en fait, qui sont d'ores et déjà nouées, mais celle-là vous plaît?
Non,
la
ça,
mule.
C'est...
Ah, vous êtes très mule, je le savais. Alors pourquoi la mule? Alors la mule avec le talon carré, attention, parce qu'on a beaucoup de talons carrés aussi
cette
saison,
ouais.
Beaucoup, comme l'année passée. On a également du talon carré avec du bijou.
C'est joli, hein?
Oui, c'est très.
Moi j'aime
voilà.
Parce que c'est vert.
C'est vert,
vert avec
donc...
presque des. Des bijoux au diamant, on dirait.
Voilà.
C'est du faux, évidemment.
C'est du toc, c'est des faux diamants. Donc, celles-ci sont chez Maje, mais c'est vraiment dans cette tendance de la chaussure bijoux.
Ouais. Romain Desarbes
alors,
vient de rentrer dans ce studio et est un peu perplexe sur la tongue moumoute.
Ou chez donc, Bocage, le modèle qu'on a vu sur Julia. Et là, on a vraiment cet imprimé bandana. Et enfin, si on veut quelque chose de très beau et très classique, les petites sandales, vraiment essentielles de l'été. Beaucoup de doré encore cette saison. Hein. Romain, je me tourne vers vous, mais pour aller danser sur le dance floor.
Mais je confirme qu'on n'est pas dans la discrétion. Là.
Pas
c'est
du tout.
La...
Du tout, mais cet été, c'est soyez flashy ou ne soyez pas. Et donc, vous
Julia
avez.
Julia me montre des
tongs doudoune, enfin, des sandales doudoune.
Moumoute. Voilà, c'est la moumoute pride, celle-ci. Hein, c'est important de le préciser. Donc, elle
arc-en-ciel.
Est. Voilà, c'est la moumoute fierté. Et du coup, là, chez Michel Vivien, où on a vraiment des petites sandales absolument magnifiques,
très
dorées, un peu plus chères que le reste de la sélection. Mais franchement, elles valent ce qu'elles valent. Elles sont très, très belles.
Eh bien, merci beaucoup pour cette sélection de nos petits petons. Sophie, merci pour ce décryptage mode. Il y en avait effectivement pour tous les goûts. Et bien voilà, Bien fait pour vous touche à sa fin. J'espère que vous avez passé une heure agréable en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre grand sujet du jour?
Demain, on va parler d'amour, ou plutôt de comment bien gérer la fin d'un amour. Comment réussir son divorce, sa séparation. C'est pas joyeux dit comme ça, mais c'est la vie. On aime autant que ce genre de cap se passe au mieux pour nous et surtout pour nos enfants. Quand ils se trouvent au milieu de la rupture de leurs parents, on vous donnera nos meilleurs conseils. Donc soyez bien au rendez-vous.
Mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme, Romain?
On va parler beaucoup de cette campagne de l'entre-deux-tours des législatives. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron ait la majorité absolue ou pas à l'Assemblée nationale? On va en débattre avec vous. Vous appelez le 39-21 et vous passez à l'antenne. On sera également avec le député La France Insoumise, Bastien Lachaud, et avec le sénateur La République En Marche, Xavier Iacovelli. Voilà le programme.
Eh bien, merci Romain. À tout de suite.
À tout de suite.